Christo a emballé le monde avec sa femme et collaboratrice Jeanne-Claude, l'artiste plasticien américain d'origine bulgare, décédé le mois dernier, a bâti une œuvre singulière, faite de bandages et d'empaquetages, de chaises comme de monuments aussi massifs qu'un pont parisien ou que le Reichstag à Berlin. Avec nous, la sociologue Nathalie Hennig. Les éditions Thierry Marchès publient un texte inédit sur la réception de l'œuvre de Christo, une enquête sociologique réalisée dans les années 80, le pont neuf de Christo, ouvrage d'art, œuvre d'art ou comment se faire une opinion. Bonjour Nathalie Hennig.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. À mes côtés, Sophie Duplex, conservatrice en chef des collections contemporaines au Musée national d'art moderne, commissaire de l'exposition Christo et Jeanne-Claude, qui devait être inaugurée au Centre Pompidou le jour où le confinement a été décrété, qui s'ouvrira finalement le 1er juillet, sans son principal intéressé, l'artiste Christo, nous ayant quitté donc le 31 mai dernier, à l'âge de 84 ans, à New York. Bonjour Sophie Duplex.
Bonjour.
Merci à vous d'être avec nous. L'exposition retrace la période parisienne de Christo et de Jeanne-Claude, entre 58 et 64 notamment, avant que le couple s'envole pour l'Amérique, puis l'aventure du Pont Neuf inaugurée en 85, puis l'aventure non encore réalisée, mais souhaitée, de l'empaquetage, de l'emballage de l'Arc de Triomphe à Paris. Première œuvre de Christo à Paris, c'était un mur de tonneaux, première œuvre, disons, qui a marqué les esprits, un mur de tonneaux rue Visconti.
Rue Visconti, j'ai fait tout un mur avec des tonneaux entassés horizontalement. Ces tonneaux étaient bloqués et soutenus par les deux côtés de la rue. Le projet ne se limitait pas seulement aux tonneaux. C'était aussi la rue Visconti, la rue de Seine et tous les spectateurs. C'est une proposition qu'on peut appliquer à tout un quartier.
Voilà, le mur provisoire de tonneaux métalliques, le rideau de fer installé rue Visconti à Paris pour protester contre les murs qui étaient en train de se dresser partout dans le monde et notamment en Europe. 27 juin 1962, là Christo en parle en 1971. Sophie Duplex, cette œuvre, qu'est-ce qu'elle nous dit de lui? En quoi elle est représentative?
Alors cette œuvre, le rideau de fer de la rue Visconti, puisque c'est comme ça que Christo l'avait appelé à l'époque, est une œuvre majeure pour lui. D'ailleurs, dans l'exposition au Centre Pompidou, une grande photo de ce mur à l'échelle 1 est reproduite et elle nous accueille. C'est une œuvre très importante pour Christo puisque c'est le premier projet dans l'espace public qu'il arrive à réaliser à Paris. Il a fait un projet l'année précédente à Cologne avec Jeanne-Claude dans le port de Cologne, mais c'est véritablement là le premier projet qu'il arrive à concrétiser donc en France, à Paris, dans cette étroite rue Visconti, avec un élément de vocabulaire avec lequel il travaille, le baril, qu'il trouve extrêmement sculptural. Et ce rideau de fer, donc, est évidemment une allusion à son passé. Hein. Il vient de Bulgarie et il est encore très marqué donc par tout ce qui s'est passé. Et c'est un commentaire, bien sûr, sur l'érection du mur de Berlin.
Alors, à ce moment-là, d'ailleurs, les frontières sont encore très rigides partout, notamment entre l'Ouest et l'Est. Comment part-il, lui, de Bulgarie? Comment arrive-t-il en France?
Alors, il part de Bulgarie en 56 pour aller voir des parents à Prague.
Il est né en 35. Hein, donc
il est né en 35, voilà, donc il est vraiment tout jeune. Et puis, il finit par pouvoir fuir à Vienne dans un wagon de marchandises, raconte-t-il. Il est inscrit quelques mois à l'Académie des Beaux-Arts, passe quelques temps à Vienne, puis réussit à aller en Suisse, à Genève, et finira début 58, en mars 58, à Paris, donc qui est une ville dont il rêve et qui l'enthousiasme véritablement, si l'on en croit les échanges, notamment avec son frère épistolaire, sur sa joie de découvrir Paris. Mais il garde toujours une certaine appréhension de par son statut. Il se sent réfugié et peut-être que les œuvres du début, justement, de la période parisienne, témoignent de cet état.
Nathalie Hennig, on va se concentrer avec vous sur le Pont Neuf de Christo, qui est une œuvre aussi racontée dans l'exposition mise en place par Sophie Duplex au Centre Pompidou, sur ce rideau de fer qu'il a d'abord conçu et monté à Paris en 62. Est-ce que ça reste, à vos yeux, une œuvre référence pour Christo, pour nous raconter Christo aussi aujourd'hui?
Oui, mais je pense qu'elle est plutôt, plus encore, elle est emblématique de ce qu'est l'art contemporain et que l'œuvre de Christo montre de façon absolument lumineuse. Dans l'extrait que vous avez passé, on l'entend dire que l'œuvre, ce n'est pas seulement les barils, mais aussi les immeubles environnants, la rue, etc. Et ça, c'est typique de ce que j'appellerais le paradigme de l'art contemporain, c'est-à-dire le fait qu'en art contemporain, l'œuvre ne réside pas dans l'objet proposé par l'artiste, mais dans toutes les conséquences que cette proposition peut avoir autour et sur l'environnement, et notamment la redéfinition de l'espace visuel, mais aussi la redéfinition des frontières de l'art. Et c'est cette redéfinition des frontières que le Pont Neuf va pratiquer, réaliser de façon absolument spectaculaire. Mmh. Donc c'est, pour moi, c'est vraiment pas seulement emblématique de l'œuvre de Christo, mais avec le Pont Neuf, j'ai découvert ce qu'est l'art contemporain, en tout cas d'un point de vue sociologique, et c'est ça qui m'a poussé à consacrer ensuite beaucoup de temps et de livres à la question de l'art contemporain.
Alors l'emballage, l'empaquetage qui va devenir la marque de fabrique, la patte artistique de Christo et de sa compagne, épouse et collaboratrice Jeanne-Claude. On se demande toujours comment est venue la première idée, la première forme qui va permettre ensuite de l'identifier vraiment à travers ses réalisations. Comment est-ce qu'il est passé d'abord du format et de l'ambition des portraits, qui était aussi comme ça qu'il gagnait sa vie, Sophie Duplex, à l'empaquetage des objets avant les édifices et les monuments?
Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont faites parallèlement chez Christo, puisqu'en effet, pour gagner sa vie, au début, il réalise des portraits. Il a fait l'Académie des Beaux-Arts à Sofia, donc il a une formation très classique. Il peut faire tout à fait de beaux portraits. Et grâce à ces portraits, il arrive à créer tout un réseau de personnalités très importantes, de dames de la haute société, donc qui vont beaucoup l'aider aussi par la suite. Et puis, l'un de ses premiers portraits, c'est celui de la mère de Jeanne-Claude, Madame de Guillebon. Et donc, par l'intermédiaire de cette dame, il va rencontrer Jeanne-Claude, qui deviendra donc son épouse et partenaire artistique. Alors les portraits, il va les continuer pendant quelques années, tout en essayant de trouver son geste artistique. Et donc à Paris, il va dans les galeries, il regarde toute l'actualité, il est très curieux. Et il y a beaucoup de peintures maniéristes à cette époque, donc il va faire des tentatives dans ce sens. Il va même faire une série absolument étonnante et jamais vue du grand public, qui s'appelle Les Cratères, en réaction à l'œuvre de Dubuffet. Et puis parallèlement, toujours, parce que tout ça se fait un peu en même temps, il empaquette des petites boîtes qui sont souvent ses peau de peinture, tout simplement, avec du tissu, et il les enroule en tour de ficelle. Et puis, il travaille après avec les barils. Et tout ça se fait un petit peu parallèlement. Et ce dont on se rend compte, c'est que très tôt, dès 1961, il utilise ces petits paquets donc à échelle réduite pour faire des photomontages. Et il se projette déjà dans l'espace public. Dès 1961, il fait deux projets pour un édifice public. Il fait donc le projet pour la rue Visconti qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis, il y a un magnifique photomontage du projet de l'Arc de Triomphe où on voit un petit paquet qui est présent d'ailleurs dans l'exposition. C'est très émouvant, qui est planté au milieu de l'avenue Foch et qui symbolise cet Arc de Triomphe qu'il va empaqueter l'automne prochain.
Et qu'est-ce qui l'intéresse là-dedans? C'est aussi un travail sur les surfaces, sur le toucher, sur la sensation.
Alors il y a tout ce travail sur la surface, effectivement.
Avant le changement d'échelle. Hein.
Ce travail très matiériste, mais dans l'empaquetage, surtout, on se rend compte avec les objets, ce qu'il cherche, c'est à retrouver les lignes de force des objets. Il a un regard très sculptural, et je dirais même déjà très architectural. on se rend bien compte que la manière dont il enveloppe les objets, donc il occulte finalement ce qui serait anecdotique, pour après les entourer de ficelles, donc retrouver ses lignes de force, est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'architecture. Et donc déjà, on se rend compte qu'il veut se déployer dans l'espace public. Et c'est exactement le même geste qu'il fera à une échelle monumentale.
Du 22 septembre au 7 octobre 1985, Christo va donc emballer le Pont Neuf à Paris. On l'écoute nous parler de cette inspiration du pont.
Tous les artistes, on a peiné, dessiné le Pont Neuf et l'ont interprété dans leur manière. Pourquoi utiliser la toile, c'est une autre question. La toile était une grande fascination pour milliers d'années au l'histoire de l'art. Certainement, le Pont Neuf, une fois impacté, ou drapé, ou enveloppé, le rendre en proportion très poétique et très nouvelle de mon façon, c'est-à-dire une interprétation différente. Je ne dis pas que le Pont Neuf n'est pas bien comme ça, mais pour 14 jours, le Pont Neuf, ce sera une nouvelle dimension.
Nathalie Hennig, dans Le Pont Neuf de Christo, l'une de vos premières enquêtes sociologiques, où vous rencontrez un nombre considérable de personnes et recueillez des documents, vous racontez à quel point cette installation est surprenante, elle est déroutante pour l'époque. D'abord parce que la pratique des bâches publicitaires qui recouvrent les bâtiments en cours de restauration n'existait pas encore. Ensuite parce que Christo n'était pas lui-même aussi célèbre qu'il ne l'est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a aussi révolutionné le regard hein, à ce moment-là. On est dans un moment, 1985, où il y a une absence de repères pour comprendre son œuvre. D'où une difficulté aussi à la qualifier à ce moment-là.
Ah oui, ça c'était tout à fait frappant et passionnant d'un point de vue sociologique. Quand j'ai appris quelques mois auparavant que le Pont Neuf allait être emballé par un artiste, je me suis dit c'est une occasion géniale pour un sociologue d'enquêter sur la perception de l'art.
Nathalie Hennig, on a une petite rupture de réseau. Voilà, vous disiez, pardon, on vous a un petit peu perdu, je ne sais pas si vous avez bougé. Vous disiez, pour une sociologue ou un sociologue, c'était une occasion unique d'enquêter hein, sur ces questions-là.
Oui, et d'enquêter sur la façon dont les gens réagissent à une perturbation de leur cadre mental, puisque, évidemment, dans le grand public, disons, personne n'imagine qu'une œuvre d'art puisse être éphémère, puisse être un empaquetage de pont. C'est, par exemple, un ouvrier qui faisait le montage de la toile, à qui la veille du début, je demandais « mais de quoi s'agit-il » me répond « les tableaux, c'est pour demain », c'est-à-dire que même l'ouvrier qui préparait l'emballage pensait que c'était juste un support pour mettre des tableaux, vous voyez. Donc on était vraiment dans quelque chose de très problématique pour beaucoup de gens. Alors bien sûr, l'œuvre de Christo était connue par les spécialistes d'art contemporain, mais c'est un tout petit monde. Et ce qui était passionnant, c'est de voir l'espace public investi et du même coup le grand public sollicité pour réagir, se demander de quoi il s'agissait, et avant même d'avoir une opinion, c'est-à-dire avant même d'être pour ou contre, de simplement pouvoir qualifier cette chose-là. Qu'est-ce que c'est ? Et donc j'ai recueilli toute une série de réactions assez amusantes, ceux qui se demandaient si c'était une publicité pour la Samaritaine, un décor pour un tournage de film, enfin il y avait toutes sortes d'hypothèses, quelquefois très négatives sur le thème, c'est les Américains qui veulent se faire du fric sur le dos de Paris, d'autres très positifs, hein, il y avait vraiment de tout. Et donc, en faisant parler les gens, en me promenant pendant 15 jours, en faisant des photos, en interviewant, etc., j'ai pu recueillir tout ce répertoire, cet éventail extrêmement riche de réactions à une proposition problématique, qui ensuite m'a fait comprendre en fait le fondement même de ce sur quoi repose l'art contemporain, c'est-à-dire le déplacement des frontières. Et ce qui est formidable avec le Pont Neuf, c'est qu'à la fois il déplace une frontière physique, la frontière des limites du pont, mais aussi et surtout les frontières mentales qui font la différence pour le sens commun entre ce qui est de l'art et ce qui n'en est pas. Et c'était ça qui était absolument passionnant à découvrir.
Sophie Duplex, sur cette particularité, cette absence de repères lorsque Christo décide d'emballer le Pont Neuf à Paris en 1985. Autre mot retenu par Nathalie Hennig dans cet ouvrage, c'est la singularité. Est-ce que c'est aussi la qualification que vous retiendriez?
Alors je dirais d'ailleurs, pour rebondir sur ce qu'a dit Nathalie Hennig, je dirais que effectivement Christo au sein de l'art contemporain, il est effectivement très spécifique dans sa démarche. D'ailleurs, il a vraiment à cœur de se détacher et de faire en sorte qu'on ne l'assimile pas à des courants tels le Land Art, auquel il aurait pu être assimilé. Et même pour la période parisienne, les nouveaux réalistes, donc, qui travaillaient autour de l'objet en le détournant de diverses façons, il a été proche d'eux sur le plan amical, mais il ne voulait pas qu'on l'associe à ce groupe. Et en tout cas, dans sa démarche vis-à-vis de l'empaquetage, je dirais pas seulement de l'empaquetage, en fait, c'est l'usage du tissu dans l'espace public, parce qu'il n'y a pas que des empaquetages chez Christo. En tout cas, la réalisation d'œuvres temporaires, il tient beaucoup à ce mot-là et pas éphémère, temporaire dans l'espace public, effectivement, sa démarche est totalement singulière. Puisqu'il
ouais, quelle est la différence entre temporaire et éphémère pour lui
Éphémère, je pense qu'éphémère risque de se justement rattacher à d'autres pratiques de l'art contemporain. Et temporaire, c'est vraiment son mot à lui. Et en l'occurrence, c'est important de souligner qu'il y a toujours deux phases dans son travail, dans l'espace public. Il y a cette phase qu'il appelle software, qui est toute la phase préparatoire qui peut durer plusieurs années. En l'occurrence, pour le Pont Neuf, c'était 10 ans, et qui consiste à convaincre les politiques, les riverains, etc., mettre tout en place. Et puis après, il y a le moment de l'empaquetage qui dure 2 semaines et qui est là un moment tout à fait exceptionnel. Parce que précisément, ça va pas durer longtemps, et je pense que dans la réception du public, c'est quelque chose d'abord effectivement d'assez inconcevable, et à la fois qui fait partie du plaisir qu'offre cette œuvre et que recherche Christo et Jeanne-Claude quand ils font ces interventions dans l'espace urbain.
Parce que quand on regarde les photos aujourd'hui de l'empaquetage du Pont Neuf à Paris ou d'autres monuments, on se dit que ça devait quand même être aussi un travail de précision, d'où des années passées sur des plans. Il fallait pouvoir imaginer chaque attache, quelle forme exactement du pont il allait épouser, celle qu'il allait masquer avec ce tissu. Des micro-petites questions à vous poser. Quel était le tissu, du coup, choisi ou retenu, notamment pour le Pont Neuf à Paris?
Alors, pour le Pont Neuf, c'était en polyamide, couleur grès, pierre d'Île-de-France, disait-il. Ça, c'était très important, parce qu'il y a toute la dimension aussi du discours. Bon, c'est ça que Nathalie Hennig a bien sûr analysé autour, et de la communication, qui est très important dans ses projets. Et effectivement, tous ces détails, sur le plan de l'ingénierie et des choix très précis, sont faits, bien sûr, par Christo, sur le plan esthétique, mais avec tout un ensemble de toute une équipe d'ingénieurs, puisqu'à chaque nouveau projet, Christo crée une filiale de sa société mère, la CVJ Corporation, qui, comme ça, permet d'embaucher des gens et toutes ces équipes innombrables qui sont nécessaires pour mettre en place ces projets absolument gigantesques.
14 jours seulement, voilà, pour le temporaire. Une fois le tissu retiré, enlevé, qu'est-ce qui se passait ?
Après, ce qui se passait, c'est en fait ce qu'on montre dans l'exposition du Centre Pompidou. Ce qui se passe, c'est que les artistes avaient bien pris soin de garder un témoignage de cette intervention à travers des images d'archives, des documents, des éléments d'ingénierie justement qui avaient servi notamment à la protection du pont. Il y a cet aspect très important aussi chez Christo et Jeanne-Claude de protéger le monument. Et puis des photographies, d'innombrables photographies aussi. Et les études préparatoires essentielles, puisque ce sont elles qui servent à autofinancer ces projets, ces études préparatoires faites par Christo. Et donc, les artistes, à chaque fois, gardent un petit ensemble autour de chaque projet. Et c'est cet ensemble autour du Pont Neuf qui est présenté dans la deuxième partie de l'exposition au Centre Pompidou, qui nous permet de comprendre vraiment toute la
mécanique,
et on comprend ce projet absolument extraordinaire. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de tout à fait fascinant, enfin, un travail tout à fait fascinant.
Sophie Duplex nous disait aussi l'étendue, en fait, de ce projet, Nathalie Hennick. C'est vrai qu'on comprend là, avec ce pont neuf emballé par Christo et Jeanne-Claude, que l'œuvre d'art commence bien en amont et se termine bien en aval aussi. Nathalie Hennick, vous publiez en parallèle au CNRS Éditions un ouvrage intitulé « La cadre-analyse de Erving Goffman » et qui repart de son essai à lui « Frame Analysis » publié en anglais en 1974, traduit en français en 1991, qui est à ce moment-là, au moment de cette enquête que vous réalisez sur l'empaquetage du Pont Neuf, votre bible empirique théorique, qui vous permet aussi de comprendre ce qui se joue là comme sociologue. Peut-être deux mots à retenir avec cette œuvre de Christo, c'est le changement de cadre.
Oui, c'est exactement ça. En fait, à l'époque donc, où l'affaire du Pont Neuf a eu lieu, j'ai découvert la version anglaise de Frame Analysis, donc qui n'était pas encore traduit, et j'ai découvert un outil formidable, très peu connu, parce que c'est le seul livre de Goffman qui était vraiment très peu utilisé, et lui-même disait que c'était son livre préféré et qu'il était désolé qu'il soit aussi peu compris et utilisé. Et donc j'ai découvert que c'était un outil formidable pour comprendre la question des cadrages mentaux. Comment est-ce que les gens cadrent mentalement les choses, les situations, de façon à agir en conformité avec le bon cadre. Et cette expérimentation du Pont Neuf était une forme d'expérience in vivo, en direct, de ces questions d'hésitation sur les cadres, de recadrage, de décadrage, etc. Avec notamment une chose qui était passionnante, c'est la façon dont les gens passaient d'un cadre esthétique, en le qualifiant par sa beauté, en tant qu'œuvre d'art, etc., à un cadre économique en le qualifiant par son coût, etc., à un cadre fonctionnel, etc. Enfin, il y avait toute une série de cadrages que les gens manipulaient plus ou moins habilement, et avec quand même une très forte prégnance du cadre économique, notamment lorsqu'on était chez des gens qui étaient peu familiers du monde de l'art et qui ne comprenaient tout simplement pas que quelque chose d'aussi coûteux, parce que le coût de l'opération avait été largement publicisé, que quelque chose d'aussi coûteux puisse ne servir à rien, puisse ensuite être brûlé, puisqu'on savait que le tissu allait être brûlé. Et il y avait un sentiment de scandale chez beaucoup de gens, pas chez tout le monde, mais de scandale face à ce qui était considéré comme une sorte de gabegie, et aussi d'incompréhension du fait que ça n'était pas une commande publique, que ça n'était pas payé par les pouvoirs publics, que c'était une entreprise privée qui faisait cette opération, et aussi la question était que ce fameux software, donc tout ce qui se fait en amont pour rendre possible l'emballage, était en très grande partie payé par les esquisses préparatoires que Christo fabriquait et vendait sur le marché. Or, la plupart des gens qui n'étaient pas dans le monde de l'art sous-estimaient tellement le prix de ces œuvres qu'ils ne pouvaient même pas imaginer que le coût faramineux de l'opération puisse être en grande partie payé par ces ventes, puis évidemment en aval par la commercialisation des photos, etc. Enfin, tout ce qui a pu suivre l'opération. Donc, il y avait une incapacité à trouver même le cadre adéquat de cette opération. Et c'est pour ça donc que ce très beau livre de Goffman, Frame Analysis, les cadres de l'expérience, selon la traduction en français, m'a été énormément utile pour pouvoir trouver une sorte d'assise théorique pour donner sens à ces phénomènes de réception apparemment complètement désordonnés et dont, au fur et à mesure qu'avançait l'enquête, je comprenais qu'ils obéissaient à des régularités parfaitement repérables.
1,2 million de francs, c'est ce que j'ai lu à l'époque, sur le coût de l'opération, l'autofinancement, ne pas dépendre de la commande ou des subventions publiques. C'était en tout cas la règle chez les Christo. Sa femme, Jeanne-Claude, en donne une explication.
Christo dépense pour ses projets l'argent qui est à lui et qu'il pourrait dépenser à n'importe quoi d'autre. Il pourrait acheter des diamants à sa femme. Et Christo fait des dessins qui sont très beaux, qui ont une valeur marchande, beaucoup plus élevée aujourd'hui qu'il y a 25 ans, bien sûr. Vend ses dessins au musée, à des galeries et à des collectionneurs privés. Et avec l'argent, nous le dépensons pour notre plaisir. Et notre plaisir, c'est de faire les projets de Christo.
Voilà, Jeanne-Claude, la collaboratrice et compagne de Christo en 1985, invitée jusqu'à 13h30, la sociologue Nathalie Hennick, à l'occasion de l'apparition de Le Pont Neuf de Christo, enquête sociologique réalisée juste après l'empaquetage du Pont Neuf à Paris, publié seulement aujourd'hui, un texte inédit aux éditions Thierry Marchez, et la conservatrice et commissaire de l'exposition Christo et Jeanne-Claude à Paris, Sophie Duplex, l'exposition qui sera à voir à partir du 1er juillet. Ça y est, enfin, quand les portes du Centre Pompidou parisien auront rouvert. France Culture, 13h21.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Attendez à l'instant, Sophie Duplex, les cristaux devant se justifier du coût de cette opération, de cette œuvre temporaire, j'allais dire éphémère, qui était l'empaquetage du Pont Neuf à Paris. Cristaux aimait-il provoquer ou est-ce qu'il aimait plutôt créer les conditions d'un échange, essayer de convaincre? On a entendu notamment autour de cet empaquetage du Pont Neuf à Paris qu'il avait mis en place toute une campagne d'information, voire de séduction des riverains, hein, ce qui plaiderait plutôt pour son pouvoir de ou son envie d'échange et de conviction que de provocation.
Je crois que chez Christo et Jeanne-Claude, il y avait pas du tout une dimension de provocation. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est la manière dont ils réussissaient à mettre en place un système en fait calqué sur un modèle capitaliste, surtout connaissant les origines de Christo, et utiliser ce système à fond pour réaliser finalement un projet qui était sous le signe essentiel de la liberté. Moi, j'ai toujours été extrêmement fascinée par la manière dont ils arrivaient à se tenir à justement tout ce système extrêmement bien rodé et finalement faire œuvre en utilisant en effet des ressources qui sont pas les ressources habituelles utilisées par les artistes contemporains. Et tout à l'heure, vous disiez le mot « justifier ». Je crois qu'ils ne se justifiaient pas, en fait. Ils étaient pleinement, ils adhéraient pleinement à leur système et ils en étaient extrêmement fiers.
Nathalie Hennick, vous faites la comparaison aussi entre les réalisations de Christo avec Jeanne-Claude et celles de Daniel Buren, et notamment ces fameuses colonnes. Et c'est intéressant parce que il a fallu quand même plus de 10 ans à Christo pour pouvoir empaqueter, emballer le Pont Neuf à Paris. Et vous dites que la seule opposition de poids qu'il a rencontrée à Paris, c'était celle des autorités administratives. Mais que la différence avec l'affaire Buren, avec les colonnes de Buren, c'est que cette réalisation, cette œuvre d'art, elle n'a pas été imposée verticalement, imposée d'en haut par le politique. Et en plus, contrairement aux colonnes de Buren, il y avait cette temporalité différente, temporaire, là où les colonnes de Buren étaient irréversibles.
Oui, c'est très intéressant de comparer les deux. Et rappelons que l'affaire des colonnes de Buren a éclaté 6 mois après l'emballage du Pont Neuf, hein, à partir de 86. Donc là, on a vraiment deux propositions qui ont toutes sortes de points communs, notamment dans cette question du déplacement des frontières, du jeu avec l'espace public, mais qui, comme vous le dites très bien, sont très différentes de fait que les colonnes de Buren, en étant une commande publique, pose un problème civique d'utilisation de l'argent public, hein, qui a été très au centre, hein, des problèmes, et aussi un problème patrimonial qui pose une question, toujours sur la question des cadres, hein, de l'authenticité. Donc on est vraiment dans le cadrage patrimonial, du fait qu'elles sont pérennes, hein, elles ne sont pas temporaires. On a vraiment deux affaires très différentes. Celle de Christo a provoqué bien sûr des réactions négatives, mais qui sont restés de l'ordre de l'opinion individuelle, alors que l'affaire Buren est devenue une affaire, justement, ce que n'a jamais été l'emballage du Pont-Neuf, parce qu'elle a suscité des oppositions très systématiques par des associations de défense du patrimoine, qui sont allées jusqu'en justice, enfin, qui ont toutes sortes de choses que j'ai racontées par la suite, parce que sur le moment, je rêvais bien sûr de faire une enquête sur l'affaire Buren, mais ça n'a pas été possible, je ne l'ai faite que plusieurs années après. Mais en tout cas, la comparaison existe entre ces deux opérations, et on voit bien en effet comment les conditions contextuelles et la nature même des propositions influe bien sûr énormément sur le type de scandale que ça peut provoquer. Je reviens sur votre mot de provocation. Moi, c'est un mot que j'évite d'utiliser parce qu'il est plutôt utilisé par les adversaires de l'art contemporain. Les partisans de l'art contemporain utilisent plutôt le mot subversion. Et comme moi, j'essaye de ne pas produire de jugement de valeur, j'utilise le mot transgression, qui est vraiment le constat du fait que les propositions d'art contemporain outrepasse, hein, si on peut dire, transgresse les limites assignées par le sens commun, traditionnellement, à ce que doit être une œuvre d'art. Et donc, on est vraiment, dans les deux cas, dans une forme de transgression assez radicale, mais cette radicalité ne provoque pas du tout les mêmes réactions selon les conditions dans lesquelles les choses sont effectuées, et notamment selon cette différence fondamentale qui est la question de la commande publique ou pas. Hein. Dans les deux cas, c'est l'espace public, mais dans un cas, il y a commande publique, dans l'autre il n'y a pas. Et ce qui remplace en fait la commande publique dans le cas de Christo, c'est tout ce travail, non pas de justification, Sophie Duplay a raison de ce point de vue-là, mais d'explicitation de leur façon de travailler, parce que c'était pour eux la seule façon de convaincre et les autorités administratives et les habitants d'accepter quelque chose qui était très très complexe, très très inattendu, très inhabituel et très perturbant. Donc tout le travail qui ne se fait pas en cas de commande publique, parce que c'est la
Là, il a pu se faire parce que ils se sont même offert cette liberté-là. C'est ce que vous nous dites, Nathalie Hennig. Sophie Duplex, juste pour revoir en deux, trois mots avec vous comment a été bâtie, conçue cette exposition qui va s'ouvrir le 1er juillet. Il nous reste quelques minutes. Vous l'avez pensée en trois temps, principalement. Les premières années parisiennes, la décennie Pont-Neuf, et puis l'avenir. Parce que c'est un arc de triomphe qui devrait être lui aussi emballé prochainement.
Alors dans l'exposition, il y a essentiellement les années parisiennes, 58-64, et le Pont-Neuf, et au milieu, un film, Christo in Paris, qui vraiment est un film extraordinaire, je pense que Nathalie Hennig l'a vu, qui retrace vraiment toutes ces péripéties du Pont-Neuf, et il y a des allers-retours sur la biographie des artistes, donc il est majeur, c'est un film qui dure une heure au cœur de l'exposition. L'Arc de Triomphe est tout juste évoqué dans l'exposition, puisque il est à naître. En réalité, le projet, nous sommes très heureux que le projet, malgré le décès de Christo, puisse exister à l'automne 2021, donc il sera présenté du 18 septembre au 3 octobre 2021. Tout avait été déjà pensé par Christo, le tissu est prêt, donc il y a plus qu'à mettre les choses en place, donc c'est tout à fait légitime de pouvoir montrer cette œuvre, et effectivement ça viendra clore ce grand coup de projecteur sur cette œuvre absolument hors norme de Christo et Jeanne-Claude.
Merci beaucoup à vous, Sophie Duplex. On est bien content que cette exposition puisse voir le jour. Vous l'avez pensé, travaillé pendant de longs moments, on l'imagine. Et puis le confinement est arrivé. Et puis le Centre Pompidou n'a pas pu ouvrir ses portes. Ce sera donc chose faite à partir du 1er juillet, dans tout le cadre sanitaire qui vous sera imposé jusqu'au 19 octobre cette année. Christo et Jeanne-Claude à Paris. Merci à vous Sophie Duplex et merci beaucoup Nathalie Hennig. Je rappelle la parution de ce texte, Le Pont-Neuf de Christo, aux éditions Thierry Marchaise, ainsi que la cadre analyse d'Erving Goffman au CNRS édition. Merci à toutes les deux.